Donc bonsoir à tous et puis bonne année 2015 et puis donc merci d'être venu pour cette conférence. Donc 2015, alors vous le savez sans doute, ça va être l'année mondiale de la lumière et toutes les technologies liées à la lumière. Donc on va essayer de faire une programmation un petit peu liée à ça. Ça va être également le centenaire de la théorie de la relativité générale. Donc on essaiera aussi d'avoir une conférence liée à ça. Donc pour vous annoncer, et puis vous avez aussi les vœux de l'IAP que vous pouvez aller voir sur notre site internet qui font notamment référence aux nouveaux résultats Planck, aux nouvelles données Planck qui vont être diffusées dans la communauté très bientôt. Donc n'hésitez pas à aller voir les vœux de l'IAP sur internet. Pour nos conférences ici, donc ce soir nous avons le plaisir d'avoir James Lequeux que je vais vous présenter dans un instant. À la suite du programme, donc le 3 février, nous aurons Sylvain Turkchez qui nous fera une conférence sur le soleil et les enjeux sociétaux, où en sommes-nous? Le 3 mars, Jean-Pierre Bibring nous parlera de la mission Rosetta, dont vous avez sans doute suivi l'actualité il y a quelques semaines avec Philae. Le 7 avril, Francis Rocard du CNES nous parlera de Curiosity, une exploration de l'habitabilité de Mars. Le 5 mai, Frédéric Daigne de l'IAP, de l'Institut d'astrophysique de Paris, nous parlera des sursauts gamma. Le 2 juin, Hector Bravo, qui est un chercheur qui est en visite actuellement dans notre institut, nous fera une conférence qui portera sur les calendriers mayas et le mythe de la fin du monde. Et puis, à la toute fin de l'année, nous aurons une conférence exceptionnelle qui, elle, ne sera pas le premier mardi du mois, mais le dernier mardi du mois de juin. Nous aurons une conférence par Didier Queloz, qui est l'un des deux co-découvreurs de la première planète extrasolaire. Cette conférence, elle n'aura pas lieu ici, mais dans un amphi plus grand dans Paris, sera sur inscription également, puisque donc 2015 marquera également le 20e anniversaire de la première détection d'une planète extrasolaire. Voilà, donc vous voyez, un programme chargé pour ce début d'année. Et donc ce soir, donc, nous avons le plaisir d'accueillir James Lequeux, dont nous venons de fêter l'anniversaire, je viens de l'apprendre, donc c'est une bonne conférence qui tombe bien pour lui. Donc James Lequeux est notre collègue, donc il est astronome émérite à l'Observatoire de Paris. C'est un spécialiste de la matière interstellaire et de la physique des galaxies, qu'il a beaucoup étudié, notamment dans le domaine radio et dans le domaine infrarouge. Il a écrit beaucoup de livres, et notamment pour les étudiants, pour les chercheurs, des livres références, notamment il y en a un que j'ai beaucoup regardé sur le milieu interstellaire. Donc ça, ce sont des livres en français, donc qui sont très utiles, notamment pour les étudiants de langue française. Ce livre, il est traduit également en anglais. Le livre sur la Voie lactée, je ne sais pas s'il est déjà traduit en anglais.
La Voie lactée, non.
Non, mais ça ne saurait tarder, j'imagine.
On le fera.
Bien. Donc des livres assez spécialisés, des livres plus de vulgarisation également, qu'il a rédigé beaucoup, ou a contribué, a été co-auteur de beaucoup de livres. Dans son travail également, il a eu des rôles de direction. Il a dirigé l'observatoire radio de Nancy, l'observatoire de Marseille, et puis il a eu un rôle très important également dans la communauté. Il a été éditeur en chef de la revue Astronomy and Astrophysics, donc c'est la revue dans laquelle la plupart d'entre nous, chercheurs en astronomie, publions nos résultats, et donc à chaque fois qu'on publiait, on passait par l'éditeur. Donc il a passé la main il y a quelques années, je crois.
Ah oui, ça fait un moment. 99,
ça fait un certain temps. Mais je crois que tu l'as été pendant 10 ans, 15 ans.
15 ans.
Voilà, donc il a beaucoup laissé sa marque dans la recherche astronomique de ce point de vue-là également. Et puis il travaille également beaucoup en histoire de l'astronomie. Il a été commissaire de plusieurs expositions qui ont eu lieu ici à l'Observatoire de Paris, notamment une exposition sur Foucault, une exposition sur Arago. Il a écrit d'autres ouvrages également qui ont trait à l'histoire de l'astronomie. Donc récemment, un livre sur l'histoire de l'Observatoire de Paris, des livres sur Fizeau, Le Verrier, Arago. Et donc c'est un petit peu de ça dont il va nous parler ce soir, donc avec cette conférence sur Arago et Le Verrier, naissance et stagnation de l'astrophysique française. Merci pour cette conférence, nous t'écoutons.
Bien. Eh bien, je suis très heureux d'avoir un public aussi nombreux. Et je vous présente à tous mes vœux pour cette nouvelle année. Alors, je vais vous parler de deux personnages qui sont aussi dissemblables qu'il est possible, Arago et Le Verrier. Alors, ils ont joué un rôle très important pour l'Observatoire de Paris et pour l'astronomie au XIXe siècle en général, parce qu'ils se sont succédés à la direction de l'Observatoire. Je ne devrais pas dire direction pour Arago, car il n'a jamais été directeur de l'Observatoire. L'observatoire était le fief du bureau des longitudes qui tenait à garder la responsabilité. Et quant à Urbain Le Verrier, il a succédé à Arago en 1854. Et lui, il s'est débarrassé du bureau des longitudes et il a joué son rôle de dictateur fort bien. On en reparlera tout à l'heure. Alors, ce sont des personnages très différents. Vous voyez, d'ailleurs, ça se voit sur les portraits. Arago est un personnage ouvert, aimable, alors que Le Verrier est un personnage hautain et plutôt, il était très désagréable, en fait. Donc, mais tous les deux avaient des qualités et des défauts. Et je vais un petit peu en parler maintenant. Alors, on va d'abord parler d'Arago. Alors, Arago, il est né à Estagel, qui est dans une petite ville de Pyrénées-Orientales. Et il est entré à l'Observatoire de Paris très jeune, en 1805. Il était à ce moment-là élève de l'École polytechnique. Et Laplace, qui était l'astronome tout-puissant de l'époque, l'avait remarqué. Et il dit, tu arrêtes tes études à l'École polytechnique et tu entres à l'Observatoire. Il est entré comme secrétaire bibliothécaire, c'est un poste tout à fait subalterne, mais enfin, il était dans les lieux. Alors, l'année suivante, il a commencé une expédition extraordinaire où il est allé mesurer le méridien de Paris, prolonger la mesure du méridien de Paris au-delà de Barcelone jusqu'à dans les îles Baléares. Alors, c'est une histoire complètement folle. À peine était-il arrivé en Catalogne que la guerre franco-espagnole a éclaté. Alors il s'en est tiré parce qu'il parlait catalan, que le catalan était en fait sa langue maternelle. Donc il s'est fait passer pour un catalan et il a réussi à passer entre toutes les épreuves. Et il a fait des mesures extrêmement difficiles, par exemple, il y a une visée entre la Catalogne, une montagne de Catalogne, et la plus proche des îles Baléares, qui fait 170 km. Alors vous voyez ce que ça peut être de faire une visée, topographique sur une distance pareille. Il a mis 6 mois avant de pouvoir rester là en attendant le moment propice. Donc c'était pas facile. Donc il a fait ses mesures. Quand il a voulu revenir, son bateau était pris par des pirates qui l'ont conduit en Espagne. Alors là, il a réussi à se sauver, mais il a pris un autre bateau qui a été encore pris par des pirates. Il s'est retrouvé à Alger. Enfin, c'était une histoire incroyable. Et il s'en est tiré, mais il a ramené ses notes et ses instruments qu'il avait conservés avec lui pendant toute la durée de cette expédition. Alors quand il est rentré, il est devenu immédiatement célèbre, évidemment, et il a été élu tout de suite à l'Académie des sciences, à 23 ans. Alors c'est peut-être le plus jeune des, je ne suis pas sûr, mais c'est un des plus jeunes académiciens qui ait jamais été élu. Mais il faut dire qu'il avait déjà une certaine carrière scientifique, il avait déjà fait des choses fort intéressantes. Et alors à partir de là, donc il y a eu une grande période d'activité scientifique où il a fait toutes sortes de choses, dont je vais reparler tout à l'heure, et il a fait aussi de la physique. Il a travaillé avec Fresnel, il a en quelque sorte découvert Fresnel, qui était un obscur ingénieur qui vivait à ce moment-là en Normandie et qui avait des idées très intéressantes sur la nature de la lumière. Quand Arago a vu ça, il l'a invité à l'Observatoire de Paris, et où Fresnel travaillait pendant plusieurs années avec lui. Ensuite, il a en quelque sorte découvert Ampère aussi, et il a travaillé à des problèmes d'électromagnétisme avec Ampère. Donc vous voyez qu'il avait des liens très, très étroits avec les physiciens de l'époque. Et ça, c'est très important. Alors, à partir de 1813, le Bureau des Longitudes l'a chargé de faire des conférences d'astronomie populaire. Alors, c'est Arago qui a voulu que ça s'appelle astronomie populaire. C'était de la vulgarisation. Alors, ces conférences ont eu un succès phénoménal. Le tout Paris intellectuel et autres s'y pressait. Alors, on a pu y voir toutes sortes de gens, Victor Hugo, tous les gens célèbres y étaient. Ça a eu un succès phénoménal. Et ça a duré jusqu'à 1846. Date à laquelle Arago est tombé malade progressivement. Il était diabétique Et à l'époque, on ne savait pas soigner le diabète. Donc, on en mourait. On devenait aveugle, d'ailleurs, c'est ce qui lui est arrivé, et on en mourait. Donc, mais voyez que ça a duré très longtemps. Alors, à partir de 1830, il a commencé une carrière politique. Et c'est devenu un homme politique très important. Ce qui, d'ailleurs, lui a nui, parce que quand vous parlez d'Arago à des scientifiques qui vous disent bah, « c'était un homme politique », quand vous parlez d'Arago à un homme politique, il vous dit bah, « c'était un scientifique ». Et finalement, on n'arrive pas trop à le caser. Et il y a très peu d'exemples dans ce genre-là. Le seul autre cas que je connais, c'est Franklin. Franklin qui était à la fois un scientifique et un homme politique. Il a été ambassadeur des États-Unis en France, notamment. Donc, il a commencé une carrière politique. Il était d'abord conseiller municipal de Paris, puis député des Pyrénées-Orientales pendant 20 ans. Que vous voyez, il était renouvelé à chaque fois. Et pourtant, il était dans l'opposition, en général. Mais il a été nommé aussi secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences en 1830. Alors, il faut savoir que le secrétaire perpétuel, c'est le personnage le plus important de l'Académie des sciences. Et, en fait, il tenait toute la science française, toute la science, toute la physique. Parce qu'en fait, il y a deux secrétaires perpétuels. À cette époque-là, il y en a encore maintenant d'ailleurs, il y a le naturaliste qui était Cuvier et le physicien, astronome, etc., mathématicien qui était Arago. Alors c'était un poste extrêmement important et il survolait toute la physique et l'astronomie française à cette époque-là. Alors en 1848, il a participé à la Révolution et il a été nommé pendant l'éphémère Deuxième République ministre de la Marine et des colonies. Et à ce titre-là, il a participé avec Schœlcher à l'abolition de l'esclavage. Alors on ne parle que de Schœlcher, vous voyez, ça, c'est le cas classique. Hein, on ne parle que de Schœlcher. Schœlcher, c'était peut-être l'aspirateur, mais celui qui a signé le décret et qui a eu des problèmes, ben, c'était Arago. Donc, vous voyez, c'est malheureux, on l'a vraiment oublié, mésestimé. Et j'ai essayé dans mon livre de le réhabiliter, si vous voulez. Donc, alors, en 1840, il a été président de la commission exécutive qui a dirigé la France pendant 7 semaines. Donc, il a été en quelque sorte l'équivalent d'un président de la République pendant 7 semaines. Chose que, probablement, vous ignorez tous, hein. Et pourtant c'était très important. Mais comme vous savez, ça s'est très mal terminé. Il y a eu l'affaire des ateliers nationaux qui a fait que cette révolution s'est effondrée. On a tiré sur la foule et ça s'est très mal passé par la suite. Et Arago s'est retiré à ce moment-là de la vie politique. Il était d'ailleurs très malade et presque aveugle. Mais comme son esprit marchait très bien, il y a eu une deuxième période d'activité scientifique, vous voyez, qui a duré 3 ans, où il n'était pas capable de faire des expériences lui-même, mais des observations, il les faisait faire par ses collègues, et il y a des choses très intéressantes là-dessus. Bon, alors, Arago est lié à l'observatoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'observatoire ? Eh bien, depuis 1695, création du Bureau des longitudes, l'observatoire de Paris est sous sa tutelle. Le Bureau des longitudes était un organisme qui comportait une dizaine de membres, parmi lesquels il y avait des astronomes, des mathématiciens, des navigateurs, et il régentait toute l'astronomie française, pas seulement l'Observatoire de Paris, mais l'Observatoire de l'École militaire, les observatoires de province, il y en avait à cette époque-là à Marseille et à Toulouse. Tout ça, c'était sous la tutelle du Bureau des longitudes, Et Arago n'en sera jamais directeur en titre. Il a été nommé il a été nommé directeur des observations, ce qui ne veut pas dire grand-chose pendant un temps. Mais en fait, il a toujours eu un peu les mains liées par le Bureau des longitudes. Il n'avait pas vraiment son autonomie. Alors néanmoins, l'instrumentation de l'Observatoire de Paris, qui était dans un très mauvais état, a été assez bien renouvelée. Il a fait construire un amphithéâtre à l'observatoire en 1841 pour y faire ses cours d'astronomie populaire qui attiraient tellement de monde qu'on ne savait plus où se mettre. Donc pendant un temps, ils ont été dans la salle Cassini, vous voyez, au-dessus de l'observatoire. Après, ils ont été au Collège de France. Et puis là, enfin, il y a eu un amphithéâtre qu'il a occupé jusqu'en 1846, date à laquelle il a terminé ses cours. Alors, comme je vous ai dit, donc, Arago a accueilli Fresnel, il a travaillé avec lui pendant plusieurs années, il a travaillé aussi avec Ampère, et il avait aussi des contacts fréquents avec des savants étrangers. Il est allé plusieurs fois en Angleterre, où il a rencontré tout ce qui se faisait en science à l'Angleterre à ce moment-là. Si vous voulez, la science était déjà très internationale. Elle l'a toujours été, mais c'était vraiment très très clair. Alors seulement, il est très occupé par ses activités politiques, sa santé se dégrade, comme je vous l'ai dit, et l'observatoire aussi. Parce que là, le bureau des longitudes, il regardait l'observatoire, il était toujours prêt à mettre son nez dedans, mais il le regardait de loin, et à Arago, il était aveugle, et il n'arrivait pas à le faire marcher, si vous voulez. En plus, il a fait du népotisme, en ce sens que dans l'observatoire, la plupart des astronomes étaient membres de sa famille. Ils s'étaient épousés entre eux. Enfin bref, c'était pas très clair. Donc c'est un des défauts des manœuvres. Alors maintenant, parlons. Hein, alors vous voyez, ça, c'est la seule photo qu'on ait d'Arago, elle est là. Et c'est 15 jours avant sa mort. Vous voyez, c'est quelqu'un d'extrêmement dégradé. Quand vous comparez au joli portrait que je vous ai montré au début, vous voyez qu'il était dans un état lamentable. Bon, il est mort 15 jours après. Et alors, assez curieusement, bien qu'Arago était un pionnier de la photographie, j'en reparlais, et c'est la seule photographie qui existe de lui, qui se trouve à l'Observatoire de Paris. On a de la chance. Alors, on va parler un petit peu de son travail. Alors, Arago... Donc, comme je vous l'ai dit, était en contact avec les physiciens, et en particulier avec Malus qui a découvert la polarisation de la lumière en observant à travers un cristal avec un cristal de spat, si vous voulez, la lumière du soleil réfléchit sur les fenêtres du Luxembourg, et il a constaté qu'en tournant son cristal, il y a l'intensité variée, et il en a déduit que la réflexion faisait quelque chose à la lumière, et qu'on a appelé la polarisation. Alors, Arago est devenu très rapidement le meilleur spécialiste de la polarisation. Il a travaillé un petit peu avec Malus, et il a surtout travaillé avec Fresnel, et il a construit un polarimètre simple, c'est-à-dire un appareil qui est capable de détecter la polarisation d'une lumière et de mesurer le taux de polarisation, c'est-à-dire la proportion de la lumière qui est polarisée. Et avec ce polarimètre, il a fait des découvertes importantes. Alors là, vous avez son polarimètre. Alors ça, le principe repose sur la polarisation rotatoire. Alors vous avez, comment c'était fait son polarimètre? Vous avez ici une lame de quartz qui est taillée perpendiculairement à l'axe optique. Et cette lame de quartz, quand vous l'éclairez avec une lumière polarisée, elle a la propriété de faire tourner le plan de polarisation de la lumière, et ceci d'une façon qui dépend de la longueur d'onde. Alors vous voyez, j'ai représenté ici, par exemple, ce qui se passe. Vous avez la polarisation incidente qui est là, et la lame de quartz fait tourner le plan de polarisation d'une façon qui dépend de la lumière, comme ça. Alors si vous mettez un analyseur ici, c'est-à-dire quelque chose qui n'est sensible qu'à la polarisation dans cette direction-là, ben vous voyez qu'il va voir une lumière rouge, et si vous le mettez par là, il verra une lumière verte. Donc, alors vous savez, ce polariseur est en fait un prisme biréfringent qui donne deux images, qui sont des images en couleurs complémentaires, quand la lumière est polarisée. Quand la lumière n'est pas polarisée, c'est blanc. Et quand la lumière est polarisée, vous avez deux images qui sont en couleurs complémentaires. Donc c'est très facile à voir, et c'est très sensible, et cet instrument non seulement a été utilisé par Arago, mais il a été commercialisé. Vous voyez ici un bel échantillon qui date de 1850 à peu près, qui se trouve au musée de l'école polytechnique et qui est la version commerciale du polarimètre d'Arago. Alors qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Ben, il a fait plusieurs découvertes fort importantes. D'abord, il a découvert que le ciel diurne est polarisé. C'est ce que vous pouvez voir vous-même si vous avez des lunettes de soleil polarisées, en général elles sont polarisées, vous les tournez et vous voyez que l'intensité du ciel varie. Alors la polarisation est maximum dans la direction perpendiculaire à celle du soleil. Alors il en a conclu que la lumière du soleil était diffusée par quelque chose, Par quoi ? Ben, on n'en savait rien, et on ne l'a su que beaucoup plus tard, on ne l'a su que vers 1900. On a vu que c'était les molécules d'air qui diffusaient les molécules de, oui, les molécules d'air qui diffusent la lumière solaire. Alors la même année, il a braqué son polariseur sur la Lune et il a vu que la surface de la Lune était polarisée. Il en a déduit, chose dont on se doutait bien, que la lumière de la Lune n'est pas intrinsèque, mais que c'est de la lumière solaire réfléchie. Bon, c'est pas très important. Alors plus important. Et sa découverte de ce qu'il a fait sur le Soleil. Alors, il a braqué son polarimètre sur le bord du Soleil et il a vu que ce n'était pas polarisé. Or, il avait fait des expériences, et c'est là que la physique intervient, il avait fait des mesures de polarisation de liquide et de solide incandescent, par exemple du fer porté au rouge ou du platine en fusion qui est très chaud, et il avait vu que la lumière émise soit par le fer chaud ou le platine liquide chaud était polarisé si on la regardait obliquement. Alors comme le bord du soleil on le voit obliquement et qu'il n'est pas polarisé, il en a déduit que la surface du soleil n'était ni liquide ni solide, ça ne pouvait être qu'un gaz incandescent. Alors c'est très intéressant, on ne savait rien là-dessus, on ne savait absolument rien sur le Soleil avant. Alors un peu plus tard, il a regardé les queues de deux comètes et il a constaté que la lumière qui vient des queues des Soleils est polarisée par quelque chose. Mais là encore, il ne savait pas quoi. On ne l'a su que plus tard, en fait ce sont les poussières qui forment la queue principale des comètes qui diffusent la lumière solaire et qui est laquelle lumière est polarisée. Alors, vous voyez que c'est la première fois qu'on pouvait dire quelque chose sur la nature des astres, en particulier du Soleil, par une observation lointaine. Et c'est l'astrophysique. Alors, en général, on dit que la naissance de l'astrophysique, c'est Bezen et Kirchhoff, en 1853, quand ils ont identifié certaines raies dans le Soleil avec des raies d'éléments observés au laboratoire. C'est très bien. Mais on a oublié ça. Et ça, c'est vraiment la première fois qu'on pouvait dire quelque chose par une observation à distance d'un astre. Bon, c'est le Soleil qui est important. Le reste, c'est moins important parce que on n'avait pas, pour ce qui est de la lumière diffusée par le ciel ou par les comètes, on n'avait pas les connaissances de physique nécessaires à l'époque pour pouvoir interpréter ça. Alors, les étoiles. Alors, puisque le Soleil est un gaz incandescent, pourquoi pas les étoiles ? Alors, le problème, c'est que si vous regardez, il faudrait un S asymétrique, ça serait mieux, j'ai oublié, si vous regardez une étoile, ben, c'est quelque chose de rond et symétrique, et s'il y a de la polarisation, elle est détruite par la symétrie, quoi. Il n'y a aucune raison que ça soit polarisé globalement. Pour le Soleil, on a la résolution angulaire, donc il a bien regardé le bord du Soleil. Si vous regardez le centre, il n'est pas polarisé. Donc, mais il a eu l'idée d'utiliser des binaires à éclipse. Alors quand il a étudié Algol en particulier, quand une des composantes de cette binaire arrive au bord de l'autre, ben, ça rompt la symétrie, et là on devrait voir de la polarisation. Or, il n'en a pas vu, quelle que soit la phase, Donc il en a déduit que comme le Soleil, les étoiles sont faites de gaz incandescent. C'est joli, c'est simple et c'est joli. C'est de la jolie physique. Alors Arago était aussi un pionnier de la photographie, et la première photographie astronomique réussie, c'est lui qui l'a faite avec Daguerre. Vous en avez l'image à droite, c'est l'image d'une éclipse partielle de Soleil. Malheureusement, cette image était encore à l'observatoire, c'est un daguerréotype. Elle était encore à l'observatoire à la fin du 19e siècle, et depuis ce temps-là, elle a disparu, on ne l'a jamais retrouvée. Et ça me fait pleurer, parce que c'est un document, vous vous rendez compte, c'est un document extraordinaire. C'est la première image, il y a eu des essais avant, de photographies par différentes personnes, et ça a donné à peu près rien. Et là, c'est la première fois que vous avez une image qui est pas mal, et là, elle est reproduite dans un ouvrage de la fin du 19e siècle, et c'est là que je l'ai trouvée. Et les gens de l'observatoire, en particulier l'amiral Mouchet, a dit qu'il avait vu cette image, qu'elle était à l'observatoire. Alors, il a, il a entraîné des gens à faire de la photographie astronomique, et vous avez cette magnifique image du Soleil, qui est un daguerréotype qui a été fait par Fizeau et Foucault en 1845. Ça, c'est vraiment le niveau au-dessus de sophistication au-dessus. Vous voyez l'assombrissement des bords solaires. C'est la première fois qu'on le voyait de façon objective, parce que les gens se sont énormément disputés pour savoir si ça existait ou pas, l'assombrissement des bords solaires. Mais là, on le voyait de façon objective, et vous voyez quelques taches. Alors ça, c'est 1845. Alors, Arago, et c'est une chose qu'on a encore oubliée, c'est le créateur de la photométrie stellaire, tout simplement. Alors, il a encore utilisé la polarisation dont il était spécialiste. Et là, c'est quelque chose qu'il a fait à la fin de sa vie, vers 1850. Il a fait construire un petit appareil où vous avez un polariseur, qui est un cristal de nickel, qui donc polarise la lumière de l'étoile. Et là, vous avez un prisme biréfringent, c'est le même que tout à l'heure, qui vous donne deux images de l'étoile qui sont polarisées. Alors si le plan de polarisation d'une de ces images, d'un de ces rayons, vous voyez, est parallèle au plan de polarisation ici, l'image est très forte et l'autre, vous ne la voyez pas. Et si vous tournez le polariseur par rapport à l'axe de la lunette, vous voyez que l'intensité relative des deux images varie. Et quand vous l'avez tournée de 90 degrés, c'est l'inverse. C'est celle qui était brillante et on ne la voit plus, et celle qui était noire, qu'on ne voyait pas, on la voit. Et alors, si vous pouvez très bien mesurer avec précision l'angle dont vous faites tourner le polariseur, et alors ce que faisait Arago, c'est qu'il tournait le polariseur jusqu'à ce que l'image la plus faible disparaisse dans le fond de ciel. Alors son idée, c'était que la lumière du fond de ciel était constante, ce qui n'est pas tout à fait vrai. On sait que ça varie, on sait en fait que ça varie pas mal, mais au cours d'une nuit, ça ne varie pas tellement. Et alors, de cette manière-là, il a comparé la brillance d'un certain nombre, l'éclat d'un certain nombre d'étoiles avec Vega, qu'il a pris comme référence. C'est d'ailleurs ce que font les photométristes actuels, ils prennent toujours Vega. Et vous voyez le résultat. Là, vous avez les différences de magnitude avec Vega qu'on trouve dans Simbad, qui sont très, très bonnes. Et là, vous avez ce qu'a trouvé Arago. Et vous voyez que c'est bien linéaire, la dispersion n'est pas mauvaise, il n'y a pas d'effet systématique. C'est assez extraordinaire. Et puis, on a oublié tout ça. Mais les photométristes n'ont pas oublié, car tous les photomètres qui ont suivi, et ceci pendant une centaine d'années, ont utilisé un polariseur et un analyseur qu'on faisait tourner l'un par rapport à l'autre. Donc l'idée vient d'Arago. Voilà, alors maintenant je passe à l'autre, à Le Verrier. Alors Le Verrier est venu à l'astronomie par hasard, il n'avait aucune vocation pour ça, il voulait plutôt faire de la chimie, et il se trouvait qu'il y avait un poste de répétiteur d'astronomie qui était vacant à l'école polytechnique. Il a candidaté à tout hasard et il a été pris. Et là, il a développé une carrière fulgurante en mécanique céleste. Alors c'est absolument impressionnant. Le Verrier est pratiquement le premier qui ait compris d'où venaient les comètes, qu'elles venaient d'un réservoir très lointain. C'était bien avant Oort, mais il a plus ou moins dit sans. Et il a compris que les comètes étaient fortement affectées, ça on le savait déjà un peu, mais que ça pouvait être extrêmement fortement affecté par l'attraction gravitationnelle de Jupiter, et que les orbites pouvaient être n'importe quoi quand elles étaient passées près de Jupiter. Alors il a montré des exemples. Et puis alors surtout, il a découvert Neptune en 1846. Alors je vais revenir sur cette découverte qui est assez fondamentale. Et puis, après cette découverte, il est devenu célèbre et très imbu de lui-même d'ailleurs. Et après la mort d'Arago, c'était presque automatique que ce soit lui qui ait le poste de directeur de l'Observatoire de Paris. Ce qu'il a eu. Alors, il a considérablement bouleversé l'Observatoire de Paris, pour le bien et pour le mal d'ailleurs. Et il est resté directeur avec une interruption dont je vais parler tout à l'heure. Jusqu'à sa mort en 1877. Alors, la découverte de Neptune, ça s'est passé comment ? Eh bien, il y avait un astronome de l'Observatoire de Paris, qui s'appelait Alexis Bouvard, dont vous avez l'image là, que le Bureau des longitudes avait chargé de faire des éphémérides des grosses planètes. Alors, ça a bien marché pour Jupiter et pour Saturne, il n'a pas eu de problème, mais pour Uranus, il a constaté qu'il n'y avait rien, que ça ne marchait pas. Quand vous avez, par exemple, Uranus, comme vous savez, a été découvert par Herschel, je crois que c'est en 1782, on avait quand même passablement d'observations, et c'est impossible d'avoir une orbite qui colle avec ces observations, et les observations anciennes et les observations récentes. Donc il y avait un gros problème, et Bouvard a suggéré l'existence d'une planète, une autre planète qui pourrait affecter le mouvement d'Uranus. Alors Arago a évidemment appris ça, et il a suggéré à Le Verrier d'étudier le problème. Alors Le Verrier n'était pas l'observatoire, hein, il n'avait rien à voir avec l'observatoire, mais Arago, qui avait évidemment entendu parler de ce que Bouvard avait fait, s'est dit, voilà un petit jeune qui est très fort en mécanique céleste, je vais lui donner le problème à résoudre. Alors ça a pris un an. Alors il se trouve que nous avons à l'observatoire les manuscrits de tous les calculs d'Arago, de Le Verrier. C'est absolument impressionnant. Il y en a épais comme ça, dans un papier très fin, recto verso, avec une toute petite écriture. Et c'est des calculs absolument monstrueux. Et alors, c'est des calculs monstrueux parce que c'est un problème qu'on n'avait jamais abordé. Et donc, il est parti de zéro, réellement. Alors, et il a prédit le 1er juin 1846, il a dit qu'il avait résolu le problème, qu'il y avait effectivement une planète troublante et qu'il allait en donner une position plus précise, ce qu'il a fait le 31 août. Peu de temps après, Gall, dont vous avez le portrait ici, qui est un astronome de Berlin, a découvert la planète. Alors pourquoi elle n'a pas été découverte à Paris, mais à Berlin? La raison est très simple, c'est qu'à Berlin, on était en train de construire des cartes du ciel le long de l'écliptique, vous voyez la bande où se déplacent les planètes, hein, et qu'elles allaient jusqu'à la magnitude 9 ou quelque chose comme ça. Et il n'y avait qu'à Berlin que ça existait. Donc s'il y avait un nouvel astre qui apparaissait, il était facile à repérer puisqu'on connaissait déjà, tous les astres à peu près de la même magnitude. Effectivement, la nouvelle planète avait une magnitude de l'ordre de 9. Donc c'était facile, et c'est grâce à ça qu'elle était découverte à Berlin. Alors Gall, c'est un échantillon de longévité chez l'astronome, il a vécu 99 ans. Alors comment ça a été fait dans la pratique? Vous voyez, alors vous avez ici un petit schéma où vous avez l'orbite d'Uranus, vous voyez, puis j'ai marqué des dates dessus. L'orbite réelle de Neptune, elle est là, voilà celle qu'a prédit Le Verrier, qui n'était pas tout à fait pareil, vous voyez. Et alors ici, vous voyez que Neptune attire Uranus, et là, Neptune, donc ça accélère Uranus, et là, la Neptune attire Uranus aussi, mais ça le ralentit. Donc c'est ça les perturbations de l'orbite d'Uranus. Il était accéléré avec les conjonctions entre les deux astres qui se trouvaient en 1820. Et donc, ils ont eu de la chance parce que le problème se présentait très bien. Et ensuite, Uranus était retardé. Alors, comment faire maintenant? Eh bien, à partir des perturbations, on peut essayer de trouver où est la planète troublante. Mais il y a un os, c'est qu'il faudrait connaître l'orbite d'Uranus non perturbée. Et ça, on ne le connaissait pas à l'époque. On ne savait pas que la conjonction avait lieu en 1820. Donc c'était un problème très difficile. Il fallait calculer à la fois les deux orbites. Et c'est en ça que le problème est extrêmement compliqué. Alors, c'est ce qu'on appelle un problème inverse en astronomie, hein. Et c'est la première fois qu'on a résolu un tel problème, qu'un mathématicien a résolu un problème inverse. Donc c'est un fait d'armes extraordinaire. Alors évidemment, à la suite de ça, Le Verrier est devenu immédiatement célèbre. Bon. et il va personnifier l'astronomie, non seulement l'astronomie française, mais même l'astronomie dans le monde entier, jusqu'à la fin du 19e siècle. Vous voyez. Alors là, je vous ai montré une petite image amusante, mais on en a des tas comme ça, où vous voyez, ça, c'est une publicité pour un chocolat, et ça se faisait beaucoup vers 1900, et où vous voyez l'astronomie est personnifiée par le verrier. Et on en a des tas comme ça à l'observatoire, des images dans ce genre-là. Donc il est devenu très célèbre. Mais alors, il est devenu, du coup, il est devenu très imbu de lui-même, il l'était déjà un peu avant, et extrêmement arrogant, et il a voulu l'observatoire tout de suite. Et il a essayé d'éjecter Arago, d'une façon assez horrible, d'ailleurs, je dois dire, c'était pas joli. Et ça a été sur le point d'aboutir, mais la révolution de 1848 est arrivée, donc ça a tout fait capoter, ça a fait capoter son projet. Et d'autant plus qu'Arago a joué un rôle important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la Révolution de 48. Donc ça n'a pas marché. Et Le Verrier a dû attendre la mort d'Arago pour prendre sa place. Alors voilà donc Le Verrier qui est nommé directeur de l'Observatoire en 1854. La première chose qu'il fait, c'est de se débarrasser de la tutelle du Bureau des Longitudes. Alors ça n'a pas été sans mal, parce que ça lui a créé des ennemis irréductibles, bien entendu. Les gens du Bureau des Longitudes étaient extrêmement mécontents qu'on les dépossède de leur activité principale. Ils s'occupaient encore un petit peu de longitude, mais ça c'était un peu marginal, disons. Donc, il a réformé profondément l'observatoire, et comme je vous l'ai dit, l'observatoire de Paris n'était pas en très bon état à cette époque-là, parce que Arago a fait laisser un peu tout partir à volo. Donc Le Verrier a créé une hiérarchie, c'était un dictateur, donc il a créé une hiérarchie qui était très, très solide, et il veillait au grain. Et finalement, c'était pas si, c'est, bon, on peut discuter le procédé, mais ça a donné des résultats qui n'étaient pas mal, au moins en ce qui concerne l'astronomie de position et la mécanique céleste. Par ailleurs, dès qu'il est arrivé, Le Verrier a éjecté la famille d'Arago, parce que je vous ai dit qu'Arago avait introduit un certain népotisme à l'observatoire, il y avait au moins deux astronomes qui étaient membres de sa famille, donc il les a purement et simplement éjectés, ils se sont retrouvés dans le clan Bureau des Longitudes, et ils ont créé beaucoup d'ennuis à Le Verrier, ils se sont vengés comme ils ont pu. Donc ça se passait assez mal. Mais la conséquence dramatique, c'est que les observations astrophysiques qui avaient été initiées par Arago avec l'aide des membres de sa famille, parce que c'est eux qui ont fait, par exemple, ces observations de photométrie stellaire, eh bien, ça s'est arrêté d'un seul coup. Et il n'y a pas eu d'astrophysique, il n'y a plus eu d'astrophysique du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du bilan de Le Verrier ? Ben, c'est très contrasté. Bon, d'une part, il y a des bons côtés. Bon, d'abord, il y a son travail personnel, qui est un travail extraordinaire. Donc, on a parlé de la découverte de Neptune, mais il faut voir que Le Verrier a travaillé toute sa vie à une théorie complète du système solaire, des mouvements de toutes les planètes. Et c'était tellement bon que cette théorie a été utilisée pendant 100 ans par les éphémérides pour fabriquer les éphémérides, par la connaissance des temps et même dans une certaine mesure des éphémérides étrangers. Pour fabriquer les éphémérides des planètes. Donc c'est un travail absolument remarquable qu'il a fait pratiquement tout seul, avec à la fin de sa vie, comme il était assez malade, il a eu un esclave qui s'appelait Aimable Gaillot qui a fait un peu de travail et qui a d'ailleurs révisé quelques erreurs qu'il a trouvées dans ses travaux. Alors si vous voyez à quoi les publications correspondantes, c'est des mémoires de l'Observatoire de Paris, il y en a épais comme ça, en format A4, c'est très impressionnant, c'est très impressionnant. Donc ça, c'est son travail personnel, avec pratiquement pas d'aide. Bon, alors, il a fait une chose qui est un peu contrainte et forcée, c'est embaucher Léon Foucault comme physicien de l'Observatoire. Alors Foucault, vous savez, c'est l'homme du pendule, c'est un physicien hors de pair, un expérimentateur comme il y en a un par génération. Et il avait déjà donc fait son pendule, il avait fait déjà des mesures de vitesse de la lumière, et il l'a embauché à l'observatoire un peu contraint et forcé, il n'en voulait pas, mais comme Foucault était bien introduit auprès de Napoléon III, c'est Napoléon III qui a forcé Le Verrier à embaucher Foucault. Et pourtant, c'était ce qu'il a fait de mieux, parce que Foucault a tout simplement inventé le télescope moderne à miroir de verre aluminé. C'est vraiment Foucault qui a inventé le télescope à miroir moderne. Avant, les télescopes avaient des miroirs de bronze qui se ternissaient très rapidement et qu'il fallait retravailler complètement tous les deux ou trois ans, c'était infernal. Et il n'y avait que Gerck et Herschel qui avaient la patience de faire ça, mais il y a eu très peu d'utilisation de télescopes à miroir jusqu'à Foucault. Et alors, Foucault a fait plusieurs télescopes qui sont conservés. Il y a le premier à 10 cm de diamètre, après il y a un 20 cm, il y a un 40 cm qui se trouve tous les deux à l'Observatoire de Paris. Et surtout, le plus beau, c'est le télescope de 80 cm qui est à l'Observatoire de Marseille et qui est un instrument magnifique qui a servi 100 ans. C'était à l'époque le plus grand télescope de l'époque. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été à l'époque le plus grand télescope de l'époque. Et c'est un instrument absolument magnifique. Foucault, d'ailleurs, non seulement il a fait des beaux miroirs télescopes, mais il a inventé l'optique active. Il mettait un coussin derrière le miroir de télescope dans lequel l'observateur pouvait souffler pour déformer, pour pousser sur l'arrière du miroir. Et le miroir n'avait pas la forme actuelle, c'était un miroir qui était bombé au milieu. C'était plus ou moins calculé par Foucault. Et quand on soufflait, on pouvait corriger des formations gravitationnelles qui arrivent nécessairement quand on incline le télescope. C'est extraordinaire. Alors ça a marché pendant quelques temps, puis on l'a oublié. Mais quand j'étais à Marseille, j'ai connu des gens qui avaient vu le coussin de caoutchouc qu'il y avait entre le barillet et le miroir du télescope. Donc, quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Le Verrier a créé la météorologie moderne, tout simplement. Il a créé, grâce au télégraphe électrique qui venait d'apparaître dans les années 50, il apparaît un petit peu avant, mais enfin, il s'est bien développé dans les années 50. Et là, à partir du télégraphe, on pouvait communiquer très rapidement des informations météorologiques d'un endroit à l'autre et donc s'en servir pour prévoir le déplacement des perturbations. Et c'était un gros travail d'organisation, parce que bon, l'idée est très simple, mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut collecter les informations à une certaine heure tous les jours, renvoyer, les digérer, les renvoyer, etc. Et là, Le Verrier a organisé à l'Observatoire un service dont les astronomes n'étaient pas très satisfaits parce que ça leur bouffait du personnel et des moyens, bien entendu, mais qui s'est révélé extrêmement efficace et qui est passé, disons, dans le domaine gouvernemental à la mort de Le Verrier. On a créé, en fait, quelque chose qui est devenu Météo France après. Bon, alors les mauvais points, il y en a. C'était un directeur odieux, absolument odieux. Il a oublié l'astrophysique. Et puis en plus, alors ce n'est pas tout à fait de sa faute, mais les grands instruments qu'il a essayé de construire, ils ont tous plus ou moins foiré. Alors on va voir ça plus en détail. Alors ici, vous avez une liste intéressante des 68 astronomes qui ont quitté l'observatoire. J'ai encore un problème d'informatique là. Bon, écoutez, j'en fais rien. Bon, ça fait rien, j'ai mystérieux. Alors, vous avez donc 68 astronomes qui ont quitté l'observatoire, soit qu'ils ont été virés, soit qu'ils sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils en avaient assez. Alors, vous voyez, c'est beaucoup, hein, ça, quand même, ça fait beaucoup. Donc, vous voyez le genre. Alors, Le Verrier, selon un de ses subordonnés, qui a parlé bien après, il avait généralement raison sur le fond et tort dans la forme. Là, le mot forme a disparu. Voilà. Donc, il n'était pas stupide, mais il s'y prenait tellement mal qu'il se dressait contre les gens et ça se passait extrêmement mal. Alors, là-dedans, il y en a un qui est très connu, c'est Flammarion, qui a commencé à l'observatoire il avait 18 ans, hein, comme sous-fifre, je ne sais pas, il faisait calculateur. Et il a été viré par Le Verrier au bout d'un an. C'était un peu mérité parce qu'il fichait rien, Il était en train d'écrire son premier livre de vulgarisation, donc il ne travaillait pas beaucoup en astronomie. Mais il écrivait son premier livre de la pluralité des mondes habités. Alors, c'était un beau titre pour un jeune homme de 18 ans. Donc il a été viré et il s'est vengé après. Ça a été l'opposant le plus féroce à Le Verrier dans la suite des événements. Alors, Le Verrier était tellement désagréable qu'à la fin, les astronomes se sont révoltés et ils se sont présentés au ministre le 2 janvier 1870 en lui disant « c'est lui ou c'est nous ». Et ça a été lui. Parce que Le Verrier, il s'y est mal pris, il pensait qu'il était intouchable et il a été arrogant. Il a même interpellé son ministre au Sénat, ce qui quand même faut le faire. Alors le ministre n'a pas été extrêmement ravi de cette interpellation. Et il a été viré vite fait. Alors là, j'ai reproduit la lettre de révocation de Le Verrier. Monsieur le sénateur, j'ai l'honneur de vous affirmer que par un décret en date de ce jour, l'empereur vous a relevé de vos fonctions de directeur de l'Observatoire impérial. Recevez, monsieur le directeur, l'assurance de mes sentiments de haute considération. Le ministre de l'Éducation publique se grille. Alors ça ne peut pas être plus sec, hein. Ça ne peut pas être plus sec. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a conservé ça dans les archives de l'Observatoire. Ça n'a jamais été détruit. Ce document n'a jamais été détruit. Il a dû être caché pendant le deuxième règne de Le Verrier. Alors donc, Le Verrier a été viré. Il est remplacé par Delaunay, qui était un brave homme. Delaunay a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais ce n'était pas facile parce qu'il y avait un esprit révolutionnaire à l'Observatoire. Puis il s'est noyé dans la rade de Cherbourg en 1872, donc deux ans après. Alors là, le ministre a été très très embêté. Qu'est-ce qu'on fait ? Aucun membre de l'Observatoire voulait reprendre l'Observatoire. Et tout le monde, personne n'en voulait. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a rappelé Le Verrier. Et Le Verrier est revenu, mais on l'a cette fois-ci flanqué d'un conseil costaud qui vérifiait tout ce qu'il faisait et qui l'empêchait de trop nuire, si vous voulez. Et d'ailleurs, Le Verrier s'est un peu désintéressé de l'Observatoire et il a surtout travaillé à sa grande théorie du système solaire. Voilà. Alors, les instruments ratés. Alors, Le Verrier a essayé de faire construire différents instruments. Et alors, il y en a trois. Il y a la lunette de 38 cm. Alors ça, vous avez ici une image qui représente la coupole que Arago avait fait construire en 1847, qui est toujours là, d'ailleurs, c'est la grande coupole que vous voyez au-dessus de l'observatoire, qui était quelque chose d'assez impressionnant, qui a coûté une fortune, ça a coûté une fortune, cette affaire-là, de l'ordre de 2 millions d'euros. Hein, c'est l'équivalent de 2 millions d'euros, en gros. Hein. Alors, la coupole et puis son support, qui est un truc très étrange, le renforcement du mur, etc. Bon, alors, il y avait une lunette dedans. Alors, la lunette a été terminée après la mort d'Arago. Et puis là, on a ressorti un objectif de 38 cm qu'Arago avait acheté une dizaine d'années auparavant. On l'a sorti du placard pour constater qu'il s'était détérioré. Le verre crâne n'était pas de bonne qualité et l'humidité s'était introduite à l'intérieur, ça avait fait des petites fissures, si bien que ça ressemblait à du verre dépoli. On l'a toujours, cet objectif, c'est impressionnant à voir. Donc on a laissé tomber et la lunette n'a jamais servi jusqu'à ce que les frères Henri fassent un nouvel objectif en 1884, mais tout ça c'était bien longtemps après. Donc cette lunette n'a servi à rien pendant plus de 30 ans, alors qu'elle avait coûté une véritable fortune. Bon. Alors ensuite, il y a le télescope de 120 cm. Alors le télescope de 120 cm, comme Foucault avait réussi un télescope de 80 cm, Le Verrier s'est dit, on va lui demander de faire un télescope plus grand. Alors on a acheté les verres, etc. Puis entre-temps, Foucault est mort. Et Foucault n'avait qu'un seul élève, qui s'appelait Martin, qui était beaucoup moins habile que lui. Alors, Martin a fait un miroir, et quand on l'a essayé sur le télescope, le télescope était construit. Vous voyez, vous avez toute la mécanique a été construite, vous l'avez ici. Hein. Il était dehors, il n'y avait pas de coupole, il était dehors. Donc Martin a fait le miroir, et quand on a regardé dedans, dans le télescope, on a constaté que c'était très peu lumineux. Alors le verrier, qui n'était pas idiot, s'est méfié, et puis il a regardé, il a démonté l'oculaire, et il a constaté que Martin avait mis à l'intérieur un diaphragme en carton qui ne laissait passer que la lumière qui venait de la partie centrale du miroir, et que les bords étaient infects, les bords du miroir étaient complètement ratés. Alors, on en est resté là. Ce télescope, il a fonctionné comme entonnoir à lumière. On a fait un peu de spectroscopie avec, parce qu'on peut toujours faire la spectroscopie. On n'a jamais fait vraiment d'observation directe proprement dite avec. Et il a eu un sort assez curieux, parce que André Couder, en 1930, a repoli le miroir. Et là, il a fait un beau miroir. Et sur ce, le télescope a été transporté à l'Observatoire de Haute-Provence pendant la guerre, ça devait être en 1942, et lors d'un alluminage, parce qu'à ce moment-là, on alluminait déjà, on n'utilisait plus l'argent, mais l'aluminium pour la surface du miroir, il a été cassé. Le miroir a été cassé. Donc, fin du télescope de 120. Alors, ce qu'il en reste, c'est assez marrant. Vous avez ici une image du télescope de 120 de l'Observatoire de Haute-Provence, que certains d'entre vous doivent connaître, sans doute. Et vous voyez ici que la monture équatoriale, elle vient de là, mais elle a été inversée pour des raisons que j'ignore. Vous voyez, de ces télescopes de 120, il ne reste que la monture équatoriale. Le reste a disparu. Alors, bon, autre problème, la lunette de 75 cm. Alors, peu de temps après son arrivée au pouvoir, Le Verrier a acheté deux verres, un de Flint et de Krohn, de 75 cm de diamètre. Et il a demandé à Foucault de faire un objectif de lunettes avec ça, de 75 cm, puisque c'était le diamètre des verres. Ça aurait été la plus grande lunette du monde si ça avait marché. Alors Foucault, il a constaté d'abord que les verres étaient très minces et que cette lunette aurait une distance focale abusivement grande. Alors il a proposé à Le Verrier de couper les verres et de faire une lunette de 50 cm seulement, qui aurait eu une distance focale raisonnable à ce moment-là, parce que les verres étaient, avaient l'épaisseur convenable. Alors Le Verrier a dit, il n'en est pas question, vous me faites une lunette de 75 cm. Alors Foucault s'est débattu avec ce problème, et puis il est mort, donc l'affaire est restée en plan, on est resté avec les objectifs. Et puis ça a traîné, Le Verrier est mort aussi, et puis son successeur, l'amiral Mouchet, a voulu faire par Eiffel une très grande coupole pour abriter cette lunette de 75 cm. La monture a été faite par Secrétan, il y avait une monture équatoriale, c'était une belle affaire hein, quand même, a été faite par Secrétan. Mais alors, il y avait le problème des verres, alors on a demandé, on en a coulé d'autres, ça n'a pas marché, enfin, il y a tout un micmac. Et surtout, quand on a choisi l'emplacement de la coupole, qui se trouve à peu près où se trouve, vous voyez, le grand coudet à l'Observatoire de Paris, qui est tout près d'ici, eh bien, on a découvert qu'il y avait des cavités en dessous, ce dont on pouvait se douter, parce que c'est truffé de galeries sous l'Observatoire et sous cet institut, d'ailleurs, et qu'il n'était pas question de mettre une lunette comme ça. Donc elle a été complètement abandonnée et il y a des morceaux qui ont servi à la lunette de Meudon, la grande lunette de Meudon. Peut-être les verres, mais je n'ai pas la certitude. Enfin, il y a des morceaux qui ont été réintégrés dans la lunette de Meudon, qui ont été donnés donc à Janssen pour cette lunette. Bon, alors c'est pas tout négatif, il y a eu quand même des choses convenables. Il y a eu, comme l'équatorial de 38 cm ne marchait pas, Le Verrier s'est débrouillé pour avoir de l'argent pour faire un équatorial un petit peu plus petit, dont la coupole se trouvait sur la tour ouest. Ouais, alors pendant un temps, à l'observatoire, il y avait deux coupoles. Il y avait une grande coupole qui existe toujours et une coupole un peu plus petite qui abritait cet équatorial que vous avez à gauche, là, qui date de 1858. Oui, alors, cet équatorial a marché à peu près. Il était assez peu utilisé, mais enfin, il marchait. Et puis alors, la coupole, finalement, a été démontée il n'y a pas très longtemps, il y a une trentaine d'années, et transportée à Saint-Véran, où elle doit toujours y être. Il y a un moment que je ne suis pas allé à Saint-Véran. Elle doit toujours y être. Quant à la lunette, bon, je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue. Mais probablement, nous avons toute une collection de lentilles à l'observatoire qu'il faudrait examiner de près, et il est possible qu'on retrouve l'objectif de cette lunette, dont on connaît le diamètre. Alors, il a fait un instrument méridien qui était très bon, qui est fait faire par ce crétin que vous avez là. Ça, c'est deux instruments qui existaient précédemment, qui ont été faits par Arago. Là, vous avez un cercle méridien de Gambet, puis une lunette méridienne de Gambet. Et là, il a fait un méridien qui peut faire par ce crétin un instrument méridien qui était plus gros, meilleur, etc. Bon. Et puis alors surtout, il a eu un don de Bischofsheim. Alors je ne sais pas si vous savez peut-être qui est Bischofsheim. Bischofsheim, c'était un banquier qui était un grand amateur d'astronomie et qui a financé complètement l'observatoire de Nice. Mais il ne s'est pas borné là. Il a donné de l'argent à l'observatoire de Paris, initialement pour faire un télescope coudé, et puis c'était pas mûr, l'histoire du télescope coudé n'est pas mûre, donc le verrier s'est débrouillé pour le convaincre d'utiliser l'argent pour faire l'instrument, le cercle méridien que vous avez là, qui se trouve toujours ici à l'observatoire, dans un espèce de bâtiment en aluminium qui est, paraît-il, sacré, parce qu'il est dû à l'architecte Prouvé. Et donc on peut pas toucher au bâtiment. L'instrument, il n'a pas été utilisé depuis longtemps, il n'est pas en très bon état. Alors, un petit mot sur la météorologie, voyez. Alors, voilà comment ça s'est passé. Le verrier a réussi à avoir 24 stations météorologiques dès 1856, donc 2 ans après son arrivée, ça a été très vite. Alors, il utilisait, il demandait au manipulateur du télégraphe, vous voyez, c'était télégraphe Morse, alors il y avait un manipulateur qui faisait tac 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 comme ça, tita, et pour envoyer les télégrammes. Et tous les matins à 9h, il devait relever les thermomètres et puis mesurer la direction et l'intensité du vent, et envoyer tout ça à l'Observatoire de Paris. On digérait ça, et dès l'après-midi, la carte, on imprimait une carte dont vous avez un échantillon ici, qui ressemble énormément aux cartes météo actuelles. Alors vous avez des isobars, hein, puis vous avez des petits gris-gris qui représentent la direction et la force du vent. Donc vous voyez, tout ça, c'était très tôt. Hein. Et alors, un an après, on a vu qu'on pouvait faire les premières prévisions. Alors les prévisions, c'était très rudimentaire. Il y avait une perturbation quelque part, comme les perturbations se déplacent presque toujours de l'ouest vers l'est, on disait bah, demain elle sera à tel endroit. Alors ça marchait assez bien, finalement, les prévisions à un jour, ça marche à peu près. Plus loin, ça ne marche pas du tout. Et alors, ça a tellement intéressé les pays voisins que c'est devenu européen. En 1864, la météo télégraphique est devenue européenne, avec 21 stations en France et 46 stations un peu partout dans le monde. Et vous avez ici une carte de l'Europe, voyez, où vous voyez les liens qu'il y avait avec Paris, vous voyez les liens par le télégraphe électrique. Cette carte date de 1877, c'est un peu plus tard, mais enfin, ça n'avait pas évolué énormément. Donc oui, c'est un travail assez extraordinaire. Quand Le Verrier est mort en 1877, les gens de l'observatoire ont dit qu'on en a marre de cette météo qui nous bouffe tous nos crédits. Et ça a été mis sous la tutelle de l'État, et c'est devenu le Bureau central météorologique, qui est devenu plus tard Météo France. Voilà. Alors, et l'astrophysique dans tout ça, parce que je vais surtout vous parler d'astrophysique. Alors, sous Le Verrier, il n'y a eu qu'un seul résultat important, qui ne soit pas de la mécanique céleste, c'est la découverte des étoiles de Wolf-Rayet par Monsieur Charles Wolf et Rayet, non, je ne sais plus son prénom, j'ai oublié son prénom, Georges Rayet. Georges Rayet qui a fait d'ailleurs une belle carrière, qui est devenu directeur de l'Observatoire de Bordeaux par la suite. Alors ce sont les seules étoiles qui aient des raies d'émission, comme vous savez, et ils ont vu ça avec un spectroscope très simple, et le télescope de 40 cm qui se trouve dans l'antichambre, le télescope de Foucault de 40 cm qui se trouve dans l'antichambre d'observatoire. Et ils ont vu, donc, ils ont regardé le spectre de très nombreuses étoiles et ils ont vu qu'il y avait des raies d'émission. Alors évidemment, on risquait pas de comprendre de quoi il s'agissait à cette époque-là. On n'avait pas la moindre notion sur la manière de se former les raies stellaires. Et ça restait longtemps. Voilà. Donc, c'est l'astrophysique si on veut, mais il n'y a pas d'explication. C'est une observation sans explication. Et c'est tout ce qui s'est passé pendant le temps de Le Verrier. Alors, les successeurs de Le Verrier, ils n'ont pas fait tellement mieux que lui. Ils ne se sont pas vraiment intéressés à l'astrophysique. Ils sont partis dans cette aventure énorme qui était la carte du ciel. Alors ça, c'était essentiellement l'amiral Mouchet, ce successeur direct de Le Verrier qui a mis ça sur les rails. Et ça a occupé les astronomes jusqu'à 1920-1930. Enfin, ça a duré très très longtemps. Et alors, ça s'est révélé utile tout à fait récemment, mais c'est vraiment très récemment qu'on a vu que ça a servi à quelque chose, parce qu'on a pu comparer des positions obtenues à la fin du 19e siècle avec des positions d'étoiles actuelles et mesurer des mouvements propres assez bien. Ça sera complètement dépassé par Gaïa, mais ça, même avec Hipparchos, du temps d'Hipparchos, ça a servi quand même. Bon, et puis alors après, il y a eu le problème de l'heure. Alors là, ça a été le fait de Bayeux. Bayeux, qui était directeur de l'observatoire à la suite. Alors il y a eu Mouchet, il y a eu ensuite Levy, et Bayeux a pris à l'observatoire en 1907. Alors lui, il s'intéressait à l'heure, et effectivement, on commençait à avoir la radio, on a envoyé des signaux horaires grâce à la Tour Eiffel, ce qui a entre parenthèses sauvé la Tour Eiffel de la destruction, d'ailleurs, ça a été. Mais Bayeux s'intéressait qu'à ça. Alors il est devenu, il a fondé le service international de l'heure, etc. Et pendant ce temps-là, on faisait rien d'autre. Alors, comme il n'y avait pas d'astrophysique à Paris, pratiquement, Janssen a créé avec ses propres deniers, puis surtout il avait le bras très long, il réussissait à avoir des subsides gouvernementaux importants, il a créé l'observatoire de Meudon. L'observatoire qu'on appelait d'astronomie physique de Meudon. Et ceci avec la bénédiction de Le Verrier. Parce que Le Verrier était bien content que l'astrophysique, ce qui ne l'intéressait pas, se fasse ailleurs. Il en était un peu débarrassé à l'observatoire. Alors, vous savez que ce qui s'est passé, quoi. On s'est intéressé aux planètes. On a en particulier démonté l'histoire des canaux de Mars. En fait, c'est venu principalement de l'observatoire de Meudon, grâce à la grande lunette. Et puis, on s'est intéressé au Soleil. C'est surtout Deslandres, qui est devenu directeur à la mort de Janssen, d'ailleurs, qui s'est intéressé au Soleil. Alors, c'était bien pratique sur le plan de l'observation, mais sur le plan théorique, alors impossible de tirer quoi que ce soit de là. C'était la physique de l'atmosphère solaire et surtout de son activité, il n'y en avait pas, c'est simple. On était incapable d'interpréter quoi que ce soit des observations solaires qui sont restées à l'état d'observation, si vous voulez. Alors c'est utile, évidemment, c'est utile, mais c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler de l'astrophysique. Alors en 1926, l'observatoire de Meudon a été réuni à l'observatoire de Paris. Et c'est depuis ce temps-là que Paris a eu deux sites, puis maintenant il y a le troisième site qui est la station de radioastronomie de Nancy. Bon, mais alors, on n'a pas fait beaucoup plus d'astrophysique après cette réunion qu'avant, parce que les directeurs, Esclangon en l'occurrence, ils s'intéressaient à l'heure, on a créé l'horloge parlante et tout ça, et c'était ça qui intéressait le directeur et pas l'astrophysique. Alors, il y a eu quelques exceptions. Alors, il y a eu... Vers 1910, Nordman, qui est un type qu'on a oublié mais que j'ai essayé de réhabiliter dans deux articles, il y en a un dans l'astronomie et un autre en anglais qui est plus dans un journal plus spécialisé, qui est plus difficile, si vous voulez. Alors Nordman a créé la photométrie stellaire multicolore. Et en comparant les couleurs d'un certain nombre d'étoiles avec des couleurs de corps noir, qui a de différentes températures, il en a déduit la température des couleurs des étoiles, et il a obtenu des résultats qui ne sont pas mauvais, qui sont, quand on les compare aux résultats actuels, et ça, c'est vraiment de l'astrophysique. Et pourquoi ça a marché? C'est que Norman avait des contacts avec des physiciens qui faisaient D'abord, il connaissait très bien la théorie de Planck, hein, du corps noir, et en plus, il a travaillé avec des physiciens qui faisaient des manips avec des corps noirs, qui mesuraient la température, tandis que lui mesurait la couleur avec son photomètre. Alors, Ami a fait des choses moins intéressantes, mais enfin, qui ne sont pas négligeables, en particulier sur la vitesse radiale des étoiles. Alors, Bayeux, le fils, il a fait une chose très importante, qui a eu beaucoup de développement après, c'est qu'il a montré que pour les étoiles chaudes, le spectre du côté ultraviolet était dominé par les raies et le continuum de Balmer. Bon, les raies, on les voit, le continuum de Balmer, il y a une discontinuité qui est très importante. Alors, c'est lui qui a trouvé ça, et ça a été beaucoup utilisé par la suite par Barbier, Challonge et quelques autres pour faire la classification stellaire. Ceci dit, tandis qu'on faisait ça en France, la théorie des atmosphères stellaires, elle était faite en Allemagne et aux États-Unis, elle était notamment par Schwarzschild et Eddington qui ont trempé là-dedans. Voilà. Et en France, on ne faisait pas de théorie. Voilà. Alors, celui qui a fait les choses peut-être les plus originales, c'était Mineur, qui a travaillé sur la dynamique des amas stellaires, Henri Mineur. Et alors, Mineur, il a commencé à se révolter en disant, il y en a marre de cet observatoire de Paris où on ne fait pas d'astrophysique, ou très peu, où on nous met des bâtons dans les roues. Et il était en très bons termes avec Jean Perrin. Ça se passait au moment du Front Populaire. Et il a convaincu Jean Perrin de fonder l'Observatoire de Haute-Provence, d'une part, et l'Institut d'astrophysique, d'autre part. Donc, l'Institut d'astrophysique a été pour faire la théorie, et l'Observatoire de Haute-Provence pour avoir des moyens d'observation qui ne soient pas ridicules par rapport à ce que faisaient les Américains à l'époque. Donc c'était une excellente idée, dont on bénéficie encore maintenant. Mais il faut savoir que ça s'est fait contre l'Observatoire. Et ils ont même fait un coup de vache à Esclangon, parce que Esclangon voulait monter un télescope de 1,20 m, peut-être en récupérant les bouts de celui qui ne marchait pas, et il voulait mettre ça dans une propriété qu'il avait en Haute-Provence, mais pas à côté de Saint-Michel, hein, un autre endroit. Et alors Perrin dit, il n'en est pas question, moi je ne veux pas tout ça. Il a piqué le fric que Esclangon avait demandé pour faire son télescope d'un mètre 20, et avec ça, on a fait le télescope d'un mètre 20, qui était à ce moment-là le plus grand instrument, l'observatoire de Haute-Provence, qui a eu un triste sort, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez que l'astrophysique n'a pas bien marché. Et puis entre-temps, on a oublié ce qu'avait fait Arago. Alors évidemment, c'était l'histoire ancienne, mais c'était quand même pas négligeable. C'est quand même lui, Arago, qui est vraiment le fondateur de l'astrophysique. C'est le premier qui a dit quelque chose sur la nature de l'atmosphère du Soleil, de la surface du Soleil. C'est quelque chose d'absolument remarquable. Alors, pourquoi l'astrophysique n'a pas bien marché en France au début du 19e? Ben, c'est essentiellement parce qu'il n'y avait pas de contact avec les physiciens, extrêmement peu. L'astrophysique, ça, comme son nom l'indique, ça doit se faire avec des physiciens. Il faut connaître de la physique pour la faire. Donc, il n'y avait pas très peu de contact avec les physiciens. Le seul physicien, qui est d'ailleurs plutôt mathématicien, qui soit intéressé à l'astronomie, c'est Poincaré, assez curieusement. Alors Poincaré avait des très bonnes idées sur le plan même de réalisation technique, mais il est mort prématurément, il est mort assez jeune en 1909, et ça n'a pas eu de suite. Alors les autres physiciens, bon, les Curie, c'est pas leur truc, Langevin s'est assez peu intéressé à l'astrophysique. Après il y a eu Perrin, s'y est vraiment intéressé, mais sur le tard, parce que c'était un homme politique, hein, il était devenu un homme politique, mais il s'y est intéressé sur le tard. Et puis alors, ça c'est la première raison, c'est le manque de contact avec les physiciens. Et la deuxième raison, c'est que les sujets qui ont été utilisés n'étaient pas des bons choix. Parce que s'intéresser au Soleil, c'est bien gentil, mais on a commencé à comprendre quelque chose à l'atmosphère du Soleil à peu près au milieu de la deuxième, aux environs de la Deuxième Guerre mondiale, et ça s'est fait grâce au travail d'Anglais et d'Allemands d'ailleurs. Et puis, quant à l'activité solaire qui est liée au champ magnétique, alors là, c'est très récent, hein, c'est, c'est, Il y a à peu près 20 ans qu'on commence à y comprendre quelque chose, et encore, on n'a pas tout compris. Donc oui, c'est un mauvais choix de sujet. Donc, bon, et on a eu du mal à s'en relever, parce que moi, quand je suis arrivé à faire de l'astronomie, c'était en 1954, vous voyez, c'est pas hier, hein. Ben, l'astronomie, il n'y avait pas grand-chose, hein. Il y avait Avery Chatzman qui brillait pas mal, mais c'était un mauvais pédagogue, et les gens qui ont suivi ses cours s'en souviennent, il a fallu qu'ils retravaillent après. Et puis, il y avait les survivants, Challonge, Barbier, les survivants d'une époque antérieure, qui n'étaient pas vraiment des physiciens. Et puis, les gens qui ont vraiment fait l'astrophysique, il y avait Pecker que j'oubliais quand même. Et Pecker, qui vit toujours, était un bon physicien, lui. En radioastronomie, Denis, qui était un bon physicien aussi. Denis n'avait aucune formation d'astronomie. Moi, j'ai jamais suivi un cours d'astronomie de ma vie. Et je m'en suis pas porté plus mal, mais je connais de la physique. J'ai fait de la physique quand j'étais jeune. Et ça m'a beaucoup servi. Donc, vous voyez, on revient de loin, en réalité. On revient de loin parce qu'il y a eu une éclipse de l'astrophysique française qui a duré une centaine d'années. Il faut bien le reconnaître, quoi. Voilà. Et pendant que tout se faisait dans les pays étrangers. Bon, maintenant, je crois qu'on est... C'est pas à moi de le dire, mais enfin, je pense qu'on a quand même remonté la pente. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter là.
Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation passionnante. C'est un beau pied de nez que l'Institut d'astrophysique de Paris soit boulevard Arago.
Oui.
Donc là où on fait de l'astrophysique en,
oui, c'est bien, c'est
en
bien.
Réaction à l'Observatoire de Paris qui ne voulait plus en faire. Alors, y a-t-il des questions dans la salle ou des commentaires? Oui.
Vous en avez trop dit ou pas assez, là. Qu'est-ce que l'abominable Verrier a voulu faire à Arago?
Ah, qu'est-ce qu'il a voulu
C'était
faire
C'était quoi cette anecdote?
Arago, oui, alors. Il a voulu... Attendez, que je renoue mes souvenirs, parce que là, Oui, il a voulu le déconsidérer aux yeux du roi Louis-Philippe de l'époque, il a calomnié, tout simplement. Alors, quelle calomnie, je ne me souviens plus exactement, mais c'était de la calomnie pure et simple. Et ça aboutit d'ailleurs au bureau du ministre, et le dossier était prêt quand la révolution de 48 a éclaté. C'est vraiment, Arago a eu de la chance, parce que là, ça a tout capoté d'un seul coup. Mais ça a été chaud. C'était de la calomnie, et la calomnie, comme le dit Beaumarchais, ça marche toujours, hein.
D'autres questions ou commentaires?
Ma question concerne la polarisation de la lumière du soleil et des étoiles.
Oui.
J'ai pas très bien compris de quoi il s'agit. Je sais ce que c'est que la polarisation de la lumière, c'est pas ça que je veux dire.
Oui.
Mais au niveau des observations, le bord du soleil, la lumière est polarisée.
Non, on n'est pas polarisé.
N'est pas polarisé. Bon, mais alors, la lumière qui vient du centre du
n'est
disque solaire...
N'est pas polarisée non plus.
N'est pas
Il n'y a rien de polarisé dans le Soleil.
Bon, ni dans les étoiles.
Alors, dans les étoiles, c'est plus indirect, parce qu'il a fallu se servir des binaires à éclipse, ça pourrait dire quelque chose.
J'ai pas entendu.
Il a fallu se servir des binaires à éclipse.
Oui.
Où la symétrie est rompue lorsque une des composantes passe devant l'autre, hein. Et à ce moment-là, s'il y a une polarisation des étoiles, elle doit varier lorsque le compagnon passe devant.
Donc, sur les deux images obtenues avec le polarimètre, on ne peut pas en faire disparaître une, s'il n'y a pas de polarisation.
Ah, oui, c'est ça que je n'avais pas bien compris. Surtout, elles ne sont pas colorées. Elles sont identiques et pas colorées.
Elles sont identiques et pas colorées.
Pas colorées. Voilà.
D'accord, voilà, c'était ma question.
Une autre question?
Martin.
Merci. Vous n'avez pas parlé de l'antagonisme entre Adams et Le Verrier.
Oui,
est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce qu'ils s'appréciaient ou pas?
Ils se connaissaient et s'appréciaient, parce que Le Verrier avait quand même le bon goût de reconnaître la qualité scientifique des collègues. Et ils se sont, on les a beaucoup montés contre l'autre, mais c'était les journalistes. En ce qui concerne les personnages eux-mêmes, Le Verrier est allé en Angleterre 6 mois après la découverte. Il a rencontré Airy, il a rencontré Adams, et ça s'est très bien passé. Et ils ont toujours gardé de bons rapports jusqu'à la mort de Verrier. Adams a vécu beaucoup plus vieux que Le Verrier. Alors. Donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Le problème, les problèmes ont été créés par les journalistes essentiellement.
Sur Neptune, justement, parfois on entend dire que pour les calculs de Le Verrier, il fallait faire une hypothèse sur la distance de Neptune,
qu'il y avait une dégénérescence. J'en ai pas parlé. Il y a une hypothèse, effectivement, parce que il y a une inconnue qui manque. Il y a une inconnue de plus que ce qu'on peut résoudre avec les équations. Donc il fallait faire une hypothèse sur la distance de Neptune. Et là, il a utilisé la loi de Titius Bode et il a donc pris une distance de 35 unités astronomiques. Et puis en fait, c'est pas bon. La vraie distance est 39 unités astronomiques, ce qui bien que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'orbite qu'il a déterminée est quand même assez loin de l'orbite réelle. Voilà. Vous voyez, l'orbite réelle et l'orbite prédite, vous voyez, c'est assez différent. Mais alors, il a eu du bol, parce qu'en 1846, au moment de la découverte, pratiquement, les deux positions, vous voyez, la vraie et celle qu'il avait calculée, c'est aligné, elles sont à un degré l'une de l'autre. Donc il a eu de la chance. Ça aurait été une autre époque, peut-être ça aurait pas marché. Bon, alors ensuite, il y a eu une découverte de satellites à Neptune. Uranus en avait des satellites, on a pu déterminer la masse de Neptune, la masse d'Uranus était déjà connue, et on a pu résoudre le problème complètement. Si vous voulez. Puis il y a eu d'autres. Mais Le Verrier ne connaissait pas la masse, elle ne connaissait pas la masse de la planète, c'est un problème. Donc c'était une de ces inconnues, et il y avait une inconnue de trop. Il y avait une inconnue de trop qu'il a prise arbitrairement en utilisant la loi de Titius-Bode, qui marche assez bien jusqu'à Uranus, mais elle ne marche plus pour Neptune, pas de chance. Et vous savez, elle ne marche absolument pas pour les systèmes de planètes extrasolaires. Ça, c'est un hasard étrange. Cette loi est un hasard étrange qui n'a pas, semble-t-il, de signification physique.
D'autres commentaires ou questions ?
Oui, bonsoir, monsieur. Il s'agit vraisemblablement d'une période beaucoup plus récente. Vous ne nous pas parlé de M. Danjon.
Ah, alors M. Danjon était un astronome, disons, était un astronome classique qui faisait de l'astrométrie. Mais il avait un nez superbe. Il avait beaucoup, beaucoup d'intuition. Et en fait, c'est lui qui a fait venir la radioastronomie, qui se trouvait à ce moment-là au laboratoire de physique de l'École normale supérieure, et c'est lui qui a fait venir la radioastronomie à l'observatoire. Et là, il a une très bonne idée, parce que la radioastronomie s'est beaucoup développée après. Et c'était quelque chose que... Alors ça s'est fait un petit peu en dehors et presque contre les astronomes classiques, là encore. On leur apportait quelque chose d'entièrement nouveau auquel ils ne comprenaient rien. C'était d'ailleurs réciproque, je veux dire, parce que moi j'ai assez bien vécu cette affaire-là. J'ai commencé la radioastronomie à peu près à ce moment-là. Voilà. Donc, mais Danjon avait énormément d'intuition. Il avait beaucoup, beaucoup d'intuition. Et c'est quand même lui qui a développé, qui a donné l'impulsion initiale au développement de l'astronomie française après la guerre. Ben, c'était avant 53, parce qu'il est, je crois qu'il est parti en 53 parce qu'il a eu un AVC, et il a été fortement diminué, il est mort 2 ans après, mais il est parti en 53. Et c'est... Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Ben, il y a eu un intérim, mais après, c'est Denis qui a pris la direction de l'observatoire. Mais c'est vraiment à lui... On lui doit beaucoup. Moi, je l'ai bien connu. C'était quelqu'un d'extrêmement impressionnant. Très vieille France. Il fallait s'inscrire pour prendre rendez-vous. On faisait antichambre, il y avait une petite lumière qui s'allumait quand on avait le droit d'aller voir le maître, etc. C'était très rigolo. Mais il avait du nez.
C'est plus comme ça l'Observatoire de Paris ?
Maintenant, oui. Je, Oh, il faut quand même demander rendez-vous, mais enfin, il n'y a pas de petite lumière rouge qui s'allume pour vous quand il...
Peut-être une dernière question ou un commentaire ?
Je reviens sur la loi de Titus Bode, comme vous avez dit. Cette loi dit quoi exactement ?
Alors, cette loi, elle dit que les demi-grands axes des orbites des planètes obéissent à une loi très simple, dont je ne peux pas vous dire, une loi mathématique très simple. Et alors, ça marche très bien pour les planètes qu'on connaît, jusqu'à Neptune, et même, il y a un trou entre les orbites de Mars et de Jupiter. Là, il y a un trou qui est comblé par cette mathématique, si vous voulez. Il y a quelque chose, ça prédit l'existence de quelque chose. Et quand Piazzi a découvert Cérès en 1800, alors là, tout le monde était ravi parce qu'on avait trouvé la planète qui était prédite par la loi de Titus Bode. Manque de bol, on en a découvert plusieurs autres. Après, on a vu que c'était pas du tout des planètes comme les autres. Et puis, ça marche pas pour Neptune. Et surtout, ça ne marche absolument pas pour aucun des systèmes d'exoplanètes qu'on connaît. Il y en a où on a jusqu'à 5 planètes autour du Soleil. C'est n'importe quoi, il n'y a pas l'équivalent de cette loi. On a cru pendant un moment qu'il y avait un système de 4 planètes, je ne me souviens plus, autour de telle étoile, qui semblait obéir à quelque chose dans le genre de la loi de Titus Bode, mais enfin, c'était un cas qui était venu par hasard. C'était un peu un hasard, probablement.
Bien, je vous propose d'arrêter là. Donc, merci d'être venu.
Merci, Jeff.
Merci.
Et donc, nous retrouvons pour la prochaine conférence le 3 février avec Sylvain Turchès sur le Soleil. Et j'annonce également la prochaine conférence de la SAF qui aura lieu le 14 janvier avec Pierre Drossard sur Vénus. Voilà. Donc, merci encore à James Lequeux pour cette conférence et bonne soirée.
Bonne soirée.